réponds pas.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi. Signature le week-end dernier à Addis Abeba de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. C'était en présence du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Il faut rappeler que malgré la tenue de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs au mois de décembre 2006, la conférence qui a accouché d'un pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région, l'Est de la République démocratique du Congo continue de subir des cycles de conflits récurrents et des violences persistantes de la part des groupes armés, tant nationaux qu'étrangers. Les avis sont partagés sur ces derniers accords cadres signés en Éthiopie. Le scepticisme envahit les uns et l'optimisme entre les autres quant à l'avenir de la RDC. Nous en parlons aujourd'hui dans cet échange avec comme question principale: pensez-vous que cet accord cadre pour la paix va résoudre définitivement la question de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo? Pour participer, composez le 081 890 63 15 ou bien le 081 890 43 39 ou encore rejoignez-nous à l'adresse pa@radiokapi.net. Merci à toute l'équipe qui assure la réalisation de cette émission, Titi Poutou, Pierre Lamégie et Jean-Claude Tiala. Nicole Gaka supervise ce programme et J.R. Mugimbo les coordonne. Excellente condition d'écoute à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiokapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. La République démocratique du Congo et 11 pays africains ont signé le dimanche 24 février 2013 à Addis Abeba un accord cadre pour restaurer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Devant les facilitateurs des Nations Unies et de l'Union africaine, les pays signataires de ce document se sont engagés pour un retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo et dans toute la région. Nous avons invité pour ce débat Dominique Wert, analyste politique et aussi membre du Centre de recherche de l'Afrique centrale, donc du Centre de recherche en sciences politiques de l'Afrique centrale. Dominique Wert, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour. Voilà, bonjour à tous vos auditeurs. Oui.
Voilà, d'entrée des jeux, Dominique, si on peut planter d'abord le décor avec les concepts accord cadre. Qu'est-ce qu'on peut entendre par accord cadre?
Ben, écoutez, un accord cadre, cela veut bien dire que les signataires du document s'engagent sur un certain nombre de résolutions afin de pouvoir obtenir la sécurité et la paix notamment dans ce cadre-ci dans l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, quand on parle d'un accord cadre, ça veut bien dire qu'il y a un engagement formel des signataires, c'est-à-dire des chefs d'État ou des représentants des chefs d'État qui étaient présents à Addis Abeba, et ce n'est pas simplement un accord qui lance de grandes invectives ou qui lance de grands engagements sans devoir nécessairement les tenir. Ici, dans le cadre d'un accord cadre, c'est le cas de le dire, il y a vraiment un engagement pratique et formel des signataires à mettre en œuvre, d'ailleurs on le voit bien dans le document, à mettre en œuvre concrètement les engagements qui ont été signés, qui ont été pris.
Oui, on vous entend parler, l'accord cadre n'est pas du tout, n'est pas vraiment différent d'un pacte.
Non, c'est pas vraiment différent d'un pacte, mais c'est plus que simplement un procès-verbal d'une conférence qui aurait réuni les chefs d'État et sur lesquels il y aurait eu de grandes déclarations. Il y a vraiment ici, dans l'idée de l'accord cadre, la volonté d'avoir un engagement concret et pratique qui va d'ailleurs pouvoir être évalué puisque il y a dans cet accord cadre de Addis Abeba des dispositions qui prévoient justement cette évaluation permanente et ce suivi des engagements que les chefs d'État ou les représentants des chefs d'État qui étaient présents à Addis Abeba ont pris.
Oui, en 2006, Dominique, sous l'auspice de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, il a été tenu un sommet qui a accouché d'ailleurs d'un pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement de la région des Grands Lacs. 7 ans après, toujours dans la recherche de la paix dans la région, un accord vient d'être signé. En quoi l'un est différent de l'autre ?
Ben écoutez, je pense qu'il y a évidemment d'abord le contexte qui est fort différent. En effet, le pacte qui avait été signé en 2006 était, on voit bien qu'à l'époque, la République démocratique du Congo sortait tout doucement de la période de transition, et donc il y avait évidemment des engagements pour soutenir le redémarrage, le redéveloppement démocratique, notamment de la République démocratique du Congo. Ici, évidemment, l'accord cadre, 7 ans plus tard, d'abord, il consacre le fait que même s'il y a eu des efforts, et c'est signalé dans le document, même s'il y a eu des efforts, notamment sur une bonne partie du territoire de la République démocratique du Congo, pour instaurer une stabilité et une forme de paix, il faut bien reconnaître qu'il y a encore à l'est du pays, enfin tout le monde le sait, des situations inacceptables, des violences quotidiennes sur les populations, du pillage et surtout une partie du territoire qui n'est plus sous l'autorité de l'État. Et donc la différence, elle est là, c'est que le pacte de 2006 était sur l'ensemble du territoire et sur l'ensemble de la région. Ici, avec cet accord cadre, on est vraiment centré sur l'est de la République démocratique du Congo, où on voit qu'il y a encore une instabilité inacceptable, en tout cas aux yeux de la population certainement, mais aussi maintenant de la communauté internationale.
Et pourtant, il s'agit, si on lit les textes, on se rend compte que ce sont pratiquement les mêmes signataires.
Oui, on est bien d'accord, ce sont pratiquement les mêmes signataires, et en plus, pour la petite histoire, ils n'ont même pas changé nominalement, ce sont même les mêmes, non seulement ce sont les chefs d'État qui ont signé les deux documents, mais ce sont presque les mêmes personnes qui ont signé les deux documents. Et donc, évidemment, on peut se poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que on en est revenu à devoir passer par cette étape de l'accord cadre d'Addis Abeba, et pourquoi est-ce que les choses qui ont été signées et les engagements qui ont été pris il y a 7 ans, aujourd'hui n'ont pas été respectés, en tout cas sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Mais ça, évidemment, il est facile de refaire l'histoire après coup. Maintenant, voilà, on espère que cet accord cadre-ci va vraiment permettre la restauration de l'autorité de l'État congolais dans la partie à l'est du pays, et surtout faire en sorte que les États voisins, et c'est mis dans l'accord cadre, n'apportent plus de soutien aux groupes armés illégaux et informels qui actuellement sévissent dans cette partie du territoire du Congo.
Oui, cet accord cadre engage donc les pays, comme vous venez de le dire, le pays voisin à soutenir le retour de la paix en République démocratique du Congo, bien entendu, en refusant de soutenir les groupes armés actifs dans l'est de la République démocratique du Congo. Et cela a été dit aussi dans le pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs. Alors aujourd'hui, quelles sont les garanties pour qu'on arrive réellement à l'exécution de cette recommandation ?
Mais écoutez, moi je pense que on peut lire quand même cet accord cadre avec un double regard. Et donc moi je dirais dans un premier temps j'ai quand même une forme de satisfaction en lisant le document. Et qu'est-ce qui peut vraiment garantir le fait que cette fois-ci il va y avoir un engagement concret des signataires pour arrêter la situation de déstabilisation à l'est de la République démocratique du Congo? Moi, je pense qu'il y a d'abord un engagement maintenant ferme, notamment du secrétaire général personnellement des Nations Unies, et c'est quand même une des premières fois où on voit le secrétaire général des Nations Unies par rapport à la situation en Afrique centrale, prendre personnellement les choses en main. Et donc je pense qu'à partir du moment où M. Ban Ki-moon a participé grandement à la rédaction et au fait que les chefs d'État soient présents, ou presque tous présents, puisqu'il y en avait trois qui étaient représentés par soit le vice-président, soit les ministres des Affaires étrangères, je pense que cet engagement vraiment important des Nations Unies dans la rédaction et la signature de cet accord cadre peut en tout cas laisser entendre que il va y avoir maintenant un contrôle par le Conseil de sécurité beaucoup plus poussé et beaucoup plus ferme sur l'évolution de la situation dans les semaines qui viennent.
Vous
alors,
êtes...
oui, allez-y. On peut aussi, oui. On peut aussi lire ce document, cet accord cadre, en se disant qu'il manque évidemment des choses. Alors, moi, j'aurais deux petites remarques par rapport à ça. Un, il est vrai que maintenant, c'est sans doute une dynamique diplomatique, on connaît un peu comment tout ça fonctionne. Il n'y a évidemment nommément nulle part cité le mouvement du M23, voire même les autres groupes rebelles, parce qu'on est tout le temps en train de focaliser sur le M23, mais on sait très bien qu'il y a une kyrielle de groupes armés incontrôlés qui sévissent dans cette partie du pays. Bon, ils ne sont pas cités, on les cite simplement en disant les groupes armés de manière générale. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu pointer quand même du doigt ceux qui actuellement sont les premiers fauteurs de troubles. Et puis la deuxième chose, je suis un tout petit peu inquiet sur le fait qu'on a remis autour de la table la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, qui sont en fait des pays qui, depuis la fin de la guerre froide, et notamment depuis le génocide au Rwanda, se bataillent et se disputent entre eux le leadership sur l'Afrique centrale. Et donc ici, on retrouve les grandes puissances occidentales qui sont parrains ou partenaires de cet accord cadre, alors qu'il y a eu, et c'est passé relativement inaperçu, il y a quelques jours, une rencontre, un sommet des chefs d'État à Malabo, en Guinée équatoriale, qui regroupait tous les chefs d'État des pays de l'Amérique latine et du continent africain. Et là, je trouve qu'il y a un peu de modernité dans cette dynamique sud-sud, où on voit que l'Afrique centrale pourrait, par exemple, un peu prendre exemple, ou en tout cas s'inspirer de ce qui se passe actuellement en Amérique latine. Mais évidemment, les nouvelles dynamiques ne se retrouvent pas dans cet accord cadre-là. On a repris les bons vieux parrains, les bons vieux partenaires de l'Afrique centrale, à savoir les grandes puissances occidentales, dont on sait qu'elles sont évidemment friandes des ressources naturelles qui se trouvent dans le sol de la République démocratique du Congo, notamment à l'Est.
Voilà, on
et
va
ça, c'est sans doute un peu dommage. Maintenant, voilà.
Voilà, on va revenir à vous, Dominique Hert, pour savoir quels sont les dangers de cette oui. situation. Il est temps pour nous de rappeler à nos auditeurs, vous êtes très nombreux à avoir eu déjà votre inscription pour participer à cette émission depuis hier. Nous allons vous accorder la parole tout à l'heure, et vous qui nous rejoignez, composez les 081-800-90-63-15 pour participer en direct.
Parole aux auditeurs.
Nous commençons avec Maître Machaka qui est à Lubumbashi. Bonjour Maître Machaka.
Bonjour Monsieur Gier, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Pensez-vous que cet accord cadre qui venait d'être signé à Addis Abeba pour la paix va résoudre définitivement la question de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo?
Merci beaucoup, M. Gier, de m'avoir accordé cette opportunité. L'accord cadre signé à Addis Abeba, c'est une bonne chose, M. Gier, mais nous entendons son application, M. Gier. Vu que vous savez, il y a un principe de droit qui dit que les conventions légalement signées tiennent lieu des lois à ceux qui les ont signées. C'est là où la communauté internationale et nos autorités doivent tenir compte de ça, puisque quand ils ont signé cet accord-là, directement, ils s'engagent à respecter ces accords-là. Et directement, c'est une loi qui doit les opposer au cas où ils partent à l'encontre de ces accords-là signés, messieurs. Puisque vous savez, aujourd'hui, c'est anormal. On a signé accord dans notre pays, mais l'irréplicabilité, c'est ce qui cause problème. Cet accord cadre, il y a l'implication des secrétaires généraux directement, mais je ne crois pas que ça va tenir si nos autorités congolaises, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, que ce soit les opposants, ne prennent pas leur conscience nationale, puisque ceux qui meurent là-bas, ce sont nos frères. Ce ne sont pas les étrangers ou d'autres personnes qui meurent là-bas à l'Est, puisque à peine qu'on a signé les accords cadres, en suivant les voies des ondes, il y a eu encore des désordres là-bas, les gens continuent à mourir là-bas. Pourtant, il y a tant d'accords qui est signé et ce qui vient d'être signé présentement, messager. Ce que moi je peux demander pour que ces accords-là puissent tenir debout et puissent produire des fruits, il faut que nos autorités, ceux qui sont au pouvoir et les opposants, qu'ils voient d'abord l'intérêt de notre population messagère. Ils cherchent au moins à mettre leurs intérêts privés à côté d'abord. Ceux qui meurent là-bas, ce sont nos frères, puisque vous vous rendez compte aujourd'hui, si vous perdez votre membre de famille avec la maladie, quelle douleur qui vous frappe sur votre cœur. Et maintenant, frères là qui meurent avec consorts, avec la famille.
Voilà, Maître Machaka, nous comprenons que vous saluez cet accord cadre et vous avez même évoqué la question sur l'application de cet accord et bien entendu en nous évoquant un principe des droits qui dit que les conventions légalement signées tiennent de loi pour les signataires. Merci Maître Machaka et vous insistez davantage pour que les responsables ou les autorités de la RDC puissent s'impliquer. Mais il faudrait le retenir aussi que dans cet accord on appelle la RDC à s'impliquer davantage pour résoudre ce problème. On verra avec notre invité que cela nous inspire, l'implication davantage de la RDC pour résoudre cette question. Merci Maître Machaka. Sylvain, vous êtes à Bounia. Bonjour.
Merci Pierrot.
Oui, c'est le JR.
Je vous salue et justement vous présenter aussi mes vœux les meilleurs pour le 11e anniversaire. Je salue Dominique, votre invité, mais aussi je salue Guillaume, votre auditeur que je suis toujours de Magui. Je voudrais d'abord vous féliciter pour ce sujet. Vous savez, j'ai l'accord cadre qui a été signé par les 11 chefs d'État à Addis Abeba le dimanche 24 février 2013. Laisse beaucoup d'observateurs avisés, perplexes. J'ai suivi Dominique. Je ne suis pas d'accord avec lui sur certaines choses, mais je suis quand même obligé de vous faire trois grands constats. L'accord cadre s'oriente vers l'est de la RDC, alors que la crise politique congolaise elle est nationale. C'est déjà une des préoccupations du fait que cet accord risque d'être partial et n'est pas intégré à la question politique nationale. La deuxième observation, les différents pays signataires, certains de ces pays-là font partie même des problèmes du Congo. Et vous savez bien, puisque votre invité n'a pas voulu citer le FDLR, il n'a pas voulu citer aussi les NALU, les LRA et consorts. Ce sont des problèmes. Que dit cet accord cadre dans le cadre de ces forces-là? Je crois que cet accord cadre reste muet à cette question et ça préoccupe davantage le peuple congolais. La troisième et dernière observation, lorsque le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, se forge en un ingénieur de la paix en RDC, certains garde-fous devaient être entrepris dans le cadre de pouvoir sécuriser la politique au sein de la nation congolaise. Votre invité, M. Dominique, a évoqué certaines choses, mais moi je les rappelle. Le samedi 23 février 2013, qui a précédé d'ailleurs la signature de l'accord cadre qui devait inaugurer une phase de la paix à l'est du Congo, vous avez tout suivi, j'espère que vous êtes journaliste. Le président américain Barack Obama aux USA avait rencontré le premier ministre japonais, Shinzo, pour le dossier de la militarisation de la Chine et usine nucléaire de Pyongyang pour tout simplement contraindre la Chine à ne pas causer la sécurité, disons l'insécurité, au Japon. Et donc, ils se sont donné l'accord pour que désormais la Chine ne soit pas l'acteur permissif des troubles au Japon. Alors, ça pose un problème lorsque nous rentrons chez nous. Lorsque vous lisez cet accord cadre, M. Gier, il est regrettable. Lorsqu'on recommande à certains pays de ne pas armer et de ne pas appuyer les rebelles, est-ce que vraiment c'est une recommandation qui doit faire confiance au peuple du Congo? Je me pose une question. On recommande à la RDC d'instaurer la gouvernance démocratique. Oui, c'est ce que tout le peuple congolais désire. Je vais dire ceci. Je suis désolé du pouvoir, de ce que l'on est en train de prendre la RDC comme un pays qui doit subir un drainage politique. Je sais tout simplement une chose. Les pays qui ont planqué le Congo dans la guerre ont prouvé d'une capacité de la politique étrangère vis-à-vis de la politique faible de la RDC. Nous devons être sincères vis-à-vis de nous-mêmes. Le président de la République,
Oui, rapidement, Sylvain. Donc, Sylvain, si vous pouvez quand même chuter, hein, parce que vous avez déjà pris plus d'une minute. Il y a Gaston qui attend, il est à Kinshasa.
Est-ce que je peux conclure?
Oui, si vous pouvez chuter maintenant.
Le président Kabila doit comprendre une chose. Constitutionnellement par là, il est garant de la nation congolaise. La redéfinition de la politique nationale est seule source de la paix dans ce pays. L'adoption d'une politique étrangère puissante est seule garant de la sécurité nationale. Eh bien, si le temps régional, nous allons nous plonger. Je pense que dans les temps à venir, nous allons trouver des cadres très nécessaire pour discuter de la sécurité nationale de ce pays. Et nous pourrons le faire. Merci beaucoup.
Voilà, nous avons même prévu, dans les jours à venir, on va parler de ce sujet sur la sécurité nationale. Merci Sylvain d'avoir appelé. Gaston, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Merci, bonjour à tout le monde. Oui.
Voilà, Gaston, vous avez la parole.
D'accord. J'allais avant tout dire que je vous remercie parce qu'à tout moment, lorsqu'il y a des sujets très importants concernant notre pays, vous nous accordez quand même l'occasion de pouvoir participer et donner notre point de vue. Par rapport à ce sujet d'aujourd'hui, à mon avis, je pense que la question qu'on devrait se poser, est-ce que les partis cités dans l'accord auront à pallier aux faiblesses constatées? Et comment? Parce que vous savez que l'accord cite, d'une part, d'un côté, on cite notre État qui a failli, qui est faible, qui n'arrive pas à prendre ses responsabilités en main. Mais aussi, on cite les États voisins qui sont en train, à mon avis, de contribuer pour que notre État puisse rester dans cet état ici de faiblesse que d'aucun ne doute. Mais aussi, il y a la nation, les Nations Unies, qui est aussi un organe, lorsqu'il y a des cas pareils, manifester sa force, n'a pas su le faire et veut maintenant changer de stratégie pour que la situation puisse s'améliorer. Mais il est vrai que nous sommes dans une situation, notre État est dans une situation de faiblesse. Cette faiblesse est imputée aux États voisins, à notre État, mais aussi à l'Organisation des Nations Unies. J'allais dire une chose, et surtout concernant cette démarche qu'a entrepris le haut fonctionnaire des Nations Unies, qui est le secrétaire général. À mon avis, le secrétaire général, c'est un fonctionnaire international. Mais dans la pratique, nous voyons qu'il exerce des fonctions purement politiques. Un secrétaire général qui vient proposer une résolution, un accord aux États dans un cadre régional. Et pourquoi nous-mêmes, est-ce que ce qui est dit dans l'accord, par exemple, les faiblesses de notre État, qui ne l'a pas dit jadis, qu'est-ce qu'avait fait notre État? C'est cette fois-ci, comme c'est le conseil, disons, un secrétaire général, un fonctionnaire qui constate que les États vont maintenant pallier, je ne sais pas. Les États voisins, ils sont conscients. Ils sont conscients qu'ils sont en train de semer des troubles ici pour que cette population puisse demeurer dans cette situation. Mais est-ce qu'ils vont changer d'attitude parce que Le constat a été fait depuis longtemps. Et lorsque on se limite au niveau de minimiser notre situation, c'est là où je trouve un problème. Il y a un organe habilité qui est censé prendre des décisions. On ne peut pas, pour le cas du Congo, envoyer un fonctionnaire international qui ne peut même... Ces pouvoirs ici que vous voyez ne sont pas dans la charte, nulle part dans la charte, on définit ces pouvoirs qu'exercent les conditions les secrétaires actuellement. On les définit nulle part. Je veux même vous impressionner, voir l'émission là, l'émission de maintenir la paix dans le monde. Ça ne puisse pas, disons, ça source dans la charte. Ce sont des choses qu'on a inventées suite
oui, Gaston,
au fait qu'on avait constaté
oui, Gaston,
par rapport à cet organe.
Gaston,
en tout cas, je pense que...
Si on peut revenir un peu au sujet, Gaston, la question que nous vous avons posée, pensez-vous que cet accord cadre pour la paix va résoudre définitivement la question de l'insécurité?
Répondez d'abord la question qu'on devrait se poser, est-ce que les parties citées vont changer leur attitude? Parce qu'on a constaté les faiblesses. Mais est-ce que ces parties-là vont passer l'accord, reste les documents. Hein?
Et qu'est-ce qui motive votre scepticisme? Voilà, Gaston, qu'est-ce qui motive votre scepticisme?
Pardon?
Qu'est-ce qui motive votre scepticisme?
Oui, mais ce qui motive, parce que à mon avis, les choses, ça fait un bon moment que les choses ne changent pas. Les gens crient, hein? Les gens crient, les choses ne changent pas. Et l'allure où vont les choses, c'est comme s'il y a un plan là bien tracé qui va nous amener à la mort. Mais c'est comme si, je constate comme si, même si on crie à ce moment ici, c'est un peu difficile de
voilà,
changer la situation qui va de s'empirer. Donc,
merci beaucoup Gaston, nous avons retenu votre préoccupation, on va échanger tout à l'heure avec notre invité Dominique Vert, qui est d'ailleurs en ligne et qui intervient depuis la Belgique. Olivier, on va terminer cette première série avec vous, vous êtes à Kikwit, bonjour Olivier.
Oui, bonjour J.R., bonjour à tous les auditeurs.
Voilà, Olivier, vous avez suivi vos prédécesseurs, vous avez peut-être un avis contraire?
Oui, c'est-à-dire que je pense que nous avons pratiquement tous le même avis, hein. L'accord d'Addis Abeba n'apporte rien de nouveau. Et d'ailleurs, l'invité l'a dit, les signataires sont les mêmes. Et pratiquement, le contenu du texte elle-même a traité des choses près. Je dois vous rappeler aussi que dans pratiquement tous les pactes d'associations régionales, les premières recommandations ont toujours été la non-ingérence et le non-soutien aux groupes déstabilisateurs. Alors, vous allez remarquer que dans cet accord d'Addis Abeba, il y a un problème. Enfin, une chose qui s'est ajoutée, c'est que les contraintes concernent plus la RDC. On demande à la RDC de réformer l'armée et la police et de consolider l'autorité de l'État, surtout à l'Est. Et ces deux choses-là montrent très bien que, au fait, c'est la souveraineté de tout le pays qui est mise en jeu. On nous demande de faire une réforme de l'armée et de la police. Pour qu'on fasse quoi? Pour intégrer le M23. En fait, c'est ça la réalité qu'on ne veut pas déclarer. Donc, et la réforme, vous remarquez que c'est le groupe de nos voisins qui nous l'impose. Vous devez réformer votre armée. Ça devait être la préoccupation du gouvernement et pas de nos voisins. Et pourquoi les voisins veulent ça? C'est parce qu'ils veulent effectivement injecter ou tout au moins gérer, avoir un mot à dire dans...
Oui, mais Olivier, vous êtes sans ignorer qu'au-delà de la crise, si on peut le dire ainsi, crise nationale, mais il y a aussi ces problèmes de la crise régionale ou encore sous-régionale. Il faut quand même que la solution soit trouvée d'une manière globale, comme disent les sociologues, hein, aux problèmes sociaux, des solutions aux problèmes sociaux, des solutions totales. Donc, il faudrait qu'on voit tout ça, sinon on risque de revenir à la case de départ.
Oui, tout à fait. Tout à fait, mais il faut y aller, il faut pas être naïf, hein. Il faut pas que les négociateurs soient naïfs. Alors, il y a un problème que nous devons aussi résoudre, c'est que, en fait, les causes que moi je trouve être les causes du dérapage se trouvent dans notre constitution. Et nous risquons d'aller d'erreur en erreur si on ne fait rien de ce côté-là. Je vous cite quelques articles. Nous avons l'article 213 laisse la latitude de négocier et de ratifier les traités au président seul. Et c'est ça qui justifie les va-et-vient à Kampala et partout ailleurs seul. L'article 215 dit ceci, que les accords régulièrement conclus ont une autorité supérieure à celle des lois. Ça continue. Ça signifie que ces accords-là vont surpasser nos lois et on va se retrouver finalement dans un engrenage qu'on ne fera plus maîtriser.
Merci beaucoup.
Et l'article 217.
Oui. Allez-y rapidement, donc on termine par l'article 217.
L'article 217 dit ceci, que la SDC peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté. Alors voilà la gravité des choses. Donc voilà. L'erreur est partie de là et l'invité d'hier, si vous vous souvenez,
oui,
il disait que ce texte a été élaboré et signé dans un contexte particulier. Et donc, c'est là le premier grand problème.
Oui, là vous évoquez le sujet que nous avons abordé hier, 7 ans, la constitution de la République démocratique du Congo. Merci Olivier d'avoir appelé 081-890-63-15 pour participer en direct.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Dominique Vett, vous êtes notre invité. Nous allons ramasser toutes les préoccupations des auditeurs qui venaient d'intervenir tout à l'heure. Maître Machaka qui a appelé de Lubumbashi, Sylvain de Bounia et Gaston Kinshasa, Olivier de Kikwit. Tous, en tout cas, on peut lire dans leurs interventions quelques inquiétudes, quelques appréhensions qui font qu'aujourd'hui, on ne sait pas si réellement ces accords seront en tout cas mis en œuvre pour permettre à ce que les solutions durables soient trouvées dans la situation à l'est de la République démocratique du Congo, Dominique Watt.
Mais oui, je comprends bien évidemment les interrogations, voire les inquiétudes de vos auditeurs. Je les partage en plus pour certains points. Je pense en effet que cet accord cadre qui a été signé donc par le chef de l'État congolais met en effet une pression assez forte sur les autorités de Kinshasa. Et donc moi je ne suis pas complètement d'accord quand on dit qu'il faut d'abord qu'il y ait une résolution nationale et interne au Congo avant de voir la communauté internationale s'impliquer pour essayer d'avoir une résolution durable du conflit. Moi, je pense que cet accord cadre confirme bien qu'il doit y avoir une dynamique nationale à l'intérieur de la République démocratique du Congo, dynamique politique, de réconciliation nationale, de dialogue, et le chef de l'État, d'ailleurs, s'était engagé lors de son discours du Nouvel An à mettre en place ce dialogue national. Alors, il traîne un tout petit peu, n'empêche qu'on sait, on voit quand même que le président de l'Assemblée nationale consulte, essaye un peu de mettre le cadre, justement, de ce fameux dialogue national, qui doit commencer dans les semaines qui viennent. Et donc, l'accord cadre rappelle qu'il y a vraiment une obligation de la part des autorités congolaises de mettre en place cette dynamique nationale. Et surtout de mettre en place un suivi. Donc, moi je pense que l'accord cadre a bien compris et a fait comprendre, surtout aux autorités congolaises, mais qu'il y a évidemment un problème, comme vous le disiez tout à l'heure, sous-régional, voire régional, où il y a des engagements qui doivent être pris par les pays voisins, notamment pour ne plus soutenir les groupes armés illégaux, notamment pour ne plus piller le sous-sol congolais. Mais il y a aussi évidemment un engagement de la part des autorités congolaises de mettre en place ces réformes qui... est-ce qu'on peut dire dans l'accord cadre que la réforme de l'armée et des services de police signifie que c'est pour intégrer les membres des groupes armés illégaux dans les structures officielles de sécurité? Oui, il y a évidemment une arrière-pensée qui va dans ce sens-là. Maintenant, moi je pense que la réforme de l'armée et des services de police, de toute façon, que ce soit avec ou non l'intégration de certains membres des groupes armés qui voudraient rejoindre les services de sécurité officiels, Moi, je ne pense pas que ce soit complètement, indécent, indécent, voire impertinent. Moi, je pense que il faut passer par là, d'une certaine manière, mais il faut aussi, de toute façon, réformer les services de police et l'armée congolaise, que ce soit avec l'intégration ou non des groupes armés. Il y a clairement un problème dans la chaîne de commandement, on le sait bien, il y a un problème dans la chaîne de paiement des militaires au niveau de leurs soldes, on sait qu'il y a un problème d'équipement, qu'il y a un problème de motivation, et donc voilà, ces réformes-là doivent être entreprises, et je pense que le chef de l'État en est conscient. Alors maintenant, sur l'idée que ces accords finalement ne vont rien changer, on en a signé combien depuis 7 ans, c'est vrai. Maintenant, moi je pense quand même qu'il faut mettre ça, cet accord cadre, évidemment ce n'est pas la panacée, c'est pas le dernier instrument qui maintenant va résoudre toute la question, et comme le rappelait très bien un de vos auditeurs, depuis qu'il a été signé il y a quelques jours, les violences continuent, il y a encore eu des personnes qui ont été assassinées à l'est du Congo, les pillages continuent, et donc finalement on peut se dire, ben voilà, ils ont signé, mais quand allons-nous voir concrétisation réelle de ces engagements sur le terrain. Mais je pense qu'il faut mettre cet accord cadre dans une dynamique beaucoup plus globale et qui s'inscrit notamment dans l'engagement notamment de nouveau du secrétaire général des Nations Unies, et il y tient vraiment très fort à obtenir du Conseil de sécurité la mise en place, non pas de la fameuse force neutre d'intervention, qui, elle, doit se mettre en place avec les pays africains, mais bien cette fameuse brigade d'intervention rapide, le statut et sous le mandat de la MONUSCO, et qui va voir complètement changer le mandat de la MONUSCO. Et ça, je pense que c'est assez intéressant.
Voilà, alors Dominique...
On aurait pu dire...
Oui.
Oui.
Oui, en fait, allez-y, terminez d'abord votre idée.
Je voulais juste terminer par en disant qu'on aurait pu dire que plutôt que de signer encore un nouvel accord cadre, un pacte, que sais-je, il aurait été peut-être plus utile de faire comme au Mali et de mettre en place une force militaire qui permette de neutraliser les quelques centaines de groupes armés qui sévissent dans la région.
Voilà, peut-être pas besoin.
Maintenant, Je pense quand même que c'est par la diplomatie et par le dialogue qu'on doit arriver à une solution durable, et qu'une intervention militaire du type française au Mali, dans l'est du Congo, n'aurait pas beaucoup de chances de réussir. Par contre, la mise en place de la brigade d'intervention rapide, qui va être notamment apportée par l'Afrique du Sud et l'Angola, avec des forces spéciales très bien aguerri, ça je pense que cette brigade de 2500 personnes va pouvoir vraiment neutraliser et mettre fin aux exactions qui sont commises par les groupes rebelles et les groupes armés informels qui sévissent là-bas.
Voilà, Émile est à Lubumbashi, Kabongo à Kinshasa, on va les prendre. Émile, bonjour. Voilà, Émile, pensez-vous que cet accord cadre pour la paix va résoudre définitivement la question de l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo?
Oui, en tout cas, nous aux emplois des recommandations qu'il y a dans cet accord, nous osons croire que ça peut finir les problèmes, mais pas totalement. L'est de la République démocratique du Congo, on se base surtout du Nord Kivu, il n'y a pas longtemps que Kounia est tombé, le territoire de la province de Maniema. Et je pense que ça pourrait être mieux qu'on épanouisse un peu le programme, disons, pour cette brigade d'intervention qui va intervenir là-bas, parce qu'il y a plusieurs problèmes à l'est, surtout dans les grands niveaux. Et nous pensons que le gouvernement ne peut pas négliger les problèmes qui se passent à Pugna et à Chabunda parce qu'il y a pour le moment il y a les populations qui sont qui se déplacent et la province du Maniema là-bas, c'est un sérieux problème qui annonce que malgré que vous vous intéressez au Nord Kivu, il y a aussi d'autres milices.
Voilà, on a des soucis avec l'île, hein. L'écoute est trop faible, on peut pas continuer à bien communiquer avec Émile. Merci Émile d'avoir appelé, hein, de Lubumbashi. Kabongo, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
Voilà, Kabongo, vous avez la parole.
En fait, pour répondre à votre question, celle que vous avez posée à Émile, moi j'ai dit que cet accord ne résoudra pas le problème. Parce que ce sont en réalité les rapports de force qui déterminent l'issue d'un conflit. À ma connaissance, je ne pense pas qu'on ait mis en exergue les parties en conflit. Hein, on ne les a pas citées énormément et voir aussi ce qu'il y a eu comme les intérêts qu'ils poursuivent. Étant donné que ce sont des choses qui sont décidées par les autres à l'extérieur du pays, mais pour imposer aux Congolais, sans résoudre la base du problème. Moi, j'aurais souhaité qu'il y ait un caractère contraignant. Je ne vois nulle part dans l'accord un caractère contraignant pour que si tel ne fait pas ça, voilà les sanctions. Il n'y en a pas. Hein, on parle des engagements, même si dans la plupart des cas, la grande partie des exigences sont adressées aux autorités du Congo. C'est parce qu'en réalité, c'est peut-être leur manque d'autorité et leur mauvaise gouvernance depuis un temps qui a aggravé ou qui a favorisé l'aggravation de la situation sécuritaire. J'ai toujours dit et peut-être souhaité parler comme Mobutu le disait, personne ne viendra faire le bonheur des Aïrois à leur place. C'est encore une humiliation pour moi, hein, c'est encore une humiliation à notre pays et à notre classe politique pour montrer qu'elle est encore 53 ans plus tard après l'indépendance, incapable de résoudre un problème qui concerne une minorité, mais qu'on veut coûte que coûte généraliser et déstabiliser tout un pays pour trouver le moyen de justifier certaines pensées des gens. Moi, je pense que tout le temps, avoir le même problème, il n'est toujours pas résolu. Ce n'est pas cet accord-là qui résoudra le problème, c'est la gestion du problème en interne qui va résoudre le problème.
Merci beaucoup, Confiance Kabongo. Nous retournons à vous, Dominique Wirth. C'est vrai, quand nous scrutons cet accord, on se rend compte qu'il y a trois étapes. Il y a des recommandations pour la République démocratique du Congo. Il y a une autre, d'autres recommandations pour la région et enfin pour la communauté internationale. Mais si je m'en tiens, disons, aux recommandations pour la communauté internationale, il est dit, les conseils de sécurité resteraient saisis de l'importance d'un soutien à la stabilité à long terme, je souligne bien à long terme, de la République démocratique du Congo et de la région des Grands Lacs. Que signifie cela concrètement?
Ben, écoutez, moi je pense, d'abord c'est très marrant de voir que dans la traduction française de l'accord, on dit le Conseil de sécurité resterait, alors que dans la traduction, enfin dans la version anglaise, on dit que le Conseil de sécurité devrait rester saisi de l'importance d'un soutien à la stabilité à long terme. Écoutez, moi je pense que justement, pour revenir sur ce que je disais à l'instant, moi je pense que ce paragraphe-là concerne justement la réforme du mandat de la MONUSCO. On le voit d'ailleurs plus loin dans l'accord, puisque on dit une revue stratégique de la mission de stabilisation de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, afin de renforcer son appui au gouvernement pour faire face aux enjeux d'ordre sécuritaire et favoriser l'expansion de l'autorité de l'État. Et donc moi je pense que le Conseil de sécurité, dans ce premier paragraphe qui le concerne, c'est vraiment mettre en place la fameuse brigade d'intervention rapide. Et donc, c'est une manière de faire pression sur les membres du Conseil de sécurité pour qu'ils adoptent le plus vite possible la mise en place sous mandat de la MONUSCO de cette brigade d'intervention rapide. Maintenant, il est évident que le Conseil de sécurité a aussi dans ses compétences, notamment le suivi du fameux de la fameuse résolution sur le comité de sanctions des pays qui participent au pillage des ressources naturelles. Et donc, on sait qu'il y a eu déjà des rapports et des annexes de rapports de ce comité de sanctions qui démontrent que les États voisins de la RDC sont pointés comme ayant et comme soutenant les groupes armés informels. Et donc, moi je pense que ce paragraphe, c'est vraiment vouloir dire, maintenant il faut que le Conseil de sécurité suive de très près, soit le comité de sanctions, soit la mise en place de cette brigade d'intervention rapide afin de neutraliser les forces rebelles ou les groupes armés informels.
Voilà, donc,
moi je pense que c'est plutôt ça que ça veut dire, et ça veut surtout dire aussi que même s'il y a évidemment des urgences dans d'autres parties du monde, il faut que le Conseil de sécurité reprenne à son agenda la question de l'Afrique centrale et surtout la région des Grands Lacs.
Voilà, votre réponse rejoint pratiquement la préoccupation de Confiance Kabongo de Kinshasa, qui parlait tout à l'heure d'ailleurs d'un accord qui, en principe, devrait avoir un caractère contraignant et pour lui d'ailleurs.
Alors, le caractère contraignant, c'est vrai que le mot n'est pas mis, mais évidemment, vous savez que quand on est dans les dynamiques diplomatiques, surtout assez sensibles, vu les chefs d'État qui étaient autour de la table et qui devaient signer le document, on peut quand même imaginer que dans le paragraphe 8 de cet accord cadre, à la fin de ce huitième paragraphe, il est mis un plan détaillé pour la mise en œuvre de l'accord, sera développé conjointement, y compris l'établissement de critères et mesures de suivi appropriés. Et donc on peut quand même imaginer que quand on parle de critères et de mesures et appropriées afin que cet accord soit respecté, ben on peut imaginer derrière ces deux mots qu'il pourra y avoir des sanctions. D'autant plus que, je le répète, il y a toujours ce fameux comité de sanctions qui a été mis en place en 2003. Et qui peut proposer au Conseil de sécurité de prendre des sanctions contre les pays qui pillent et qui déstabilisent la République démocratique du Congo.
Voilà, on va revenir sur les réactions des politiques à l'interne ici, de côté de la majorité, l'opposition, ainsi que certains députés. Mais il est temps d'abord d'accorder la parole à Samy et à Étienne. Samy qui est à Mahagi, dans la province orientale, et Étienne à Guémena, là nous sommes à l'Équateur. Samy, vous êtes à Mahagi, bonjour. Samy, vous êtes avec nous? Voilà, Samy est un tout petit peu distrait. On va d'abord prendre Étienne qui est à Guémena. Bonjour Étienne.
Bonjour Ado Patrick, bonjour à tous les auditeurs.
Voilà, vous avez la parole Étienne.
Ok, merci monsieur le journaliste. Je pense que je voudrais justement rejoindre mon professeur qui venait de parler depuis Kinshasa là. Vous savez, à mon avis monsieur le journaliste, que cet accord ne va rien apporter à la RDC dans la mesure où, s'il faut analyser les discours ou les propos des autorités qui ont pris part active à la signature de cet accord, donc, quelque part, s'il faut vraiment faire une bonne analyse, c'est comme ils sont seulement en train de parler en termes de discours, mais vraiment la faisabilité de cette action, nous en doutons. Parce que, monsieur le journaliste, ce qui me fait regretter, c'est que dans la plupart des cas, s'il faut parler des accords, je ne sais pas, la RDC a toujours négocié ou a toujours signé des accords en position de faiblesse. Alors moi je me dis que qu'est-ce qui empêche nos autorités de pouvoir dire la vérité en face? Parce que c'est ça, on dit si tu m'aimes, dis-moi la vérité en face. Je ne sais pas quelle est cette crainte-là de pouvoir dire certaines choses et... On est Congolais, le Congo est un pays souverain. Donc, un autre pays ne peut pas quand même donner des injonctions, même pas le
président de la même. Oui, Étienne, s'il vous plaît.
L'ARD, c'est un pays souverain qui doit prendre des décisions souveraines.
Étienne, s'il vous plaît.
Que... Oui.
Est-ce que vous avez eu à parcourir cet accord cadre signé à Addis Abeba?
Absolument, absolument.
Quels sont les points qui ont retenu sensiblement votre attention?
Non, monsieur le journaliste, si lorsque vous prenez cet accord, Et s'il faut d'abord entrer dans... J'ai plus analysé l'aspect discours prononcé d'abord par son excellence Monsieur le Président Joseph Kabila, les discours prononcés même par le Président rwandais. Donc, vous sentez quelque part qu'il y a une certaine contradiction dans ce qu'ils sont en train de parler. Donc, d'un côté, c'est le Président congolais qui prouve sa volonté de pouvoir pacifier. De l'autre côté, le dirigeant rwandais qui dit non, cet accord c'est bon, ils ont tout fait pour que la sécurité puisse revenir à l'est du pays. Mais quelque part, il y a une perplexité sur les actions vraiment, ou alors les activités qu'on doit
mener. Oui, mais à mon avis,
ce qui me m'écœure un peu quelque part sur cet
aspect. Voilà, donc vous êtes resté au niveau des discours. Ben, à mon avis, ils ne se sont pas contredits. Peut-être il y a là une volonté manifeste de pouvoir pacifier le pays. Et surtout parce que tous deux ont soutenu l'accord.
S'il vous plaît, s'il faut même prendre l'accord, le texte même. Mais dans le texte, mon frère là, je l'ai dit, ils n'ont pas une contrainte qui va contraindre la RDC, le M23 et le Rwanda de pouvoir cesser définitivement.
Voilà.
Et c'est l'aspect aussi qu'il faut voir. Ça, dans le texte légaux, on a eu assez là. Il n'y en a pas, monsieur le journaliste.
Voilà. Notre invité avait dit tout à l'heure, bon, peut-être nous cherchons les mots contraignants, mais le fait qu'il n'y en a pas, bon, voilà, ça donne place à des spéculations. Mais de toute façon, dans le paragraphe 8, il est clairement dit, disons, on a pu donner des possibilités de suivi des sanctions qui peuvent en découler au cas où les gens ne respectaient pas cet accord. Merci, Étienne,
d'avoir appelé. Mais si vous voulez voir le paragraphe 9, monsieur Gilles, vous verrez que non, quelque part, il n'y a pas tellement...
Voilà, merci Étienne d'avoir appelé de Guémena. Raphaël, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, c'est Raphaël Tungunga de Lubumbashi.
Voilà, vous avez suivi vos prédécesseurs, peut-être vous avez un avis contraire.
Oui, je suis contre ce différent contrat ou de
L'accord cadre.
De l'accord, oui, des différents accords qui se passent dans notre pays, dans la mesure où, en relation internationale, c'est dit pas d'action, pas d'intérêt, c'est-à-dire pas d'intérêt, pas d'action. Parmi les quatre pays, les quatre États qui ont fait cet accord pour maintenir ou pour mettre la paix dans l'est de notre pays, il ne faut pas faire cela de manière bénévole. Ils sont là pour attendre un profit dans notre pays. Et c'est là, à ce moment-là, c'est nous qui perdons, dans la mesure où ils vont nous assister pour un certain temps. Et c'est tout le moment. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'ils maintenir la paix ou mettre de l'équilibre dans notre pays? Nous devons faire tout pour améliorer notre armée. Parce que même Machiavel dit... Un prince ne peut pas concevoir son pouvoir s'il tient compte de l'armée de l'autrui. Il faut d'abord que nous améliorons notre armée. Moi, je n'ai pas d'accord sur de tous les accords qui sont en train de faire dans la mesure où nous allons perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Merci beaucoup, Raphaël. 081-890-63-15 pour participer en direct.
Parole aux auditeurs.
Dominique Vaut, on va conclure avec vous juste après le bulletin d'information, mais nous vous demandons juste de ramasser les inquiétudes de tout à l'heure, donc de tout derniers auditeurs, et puis nous reviendrons pour conclure juste après le bulletin d'information aussi. Vous êtes en ligne, Dominique? Voilà, Dominique, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous.
Voilà, vous avez suivi les auditeurs de tout à l'heure. Que répondez-vous à leurs préoccupations?
Mais écoutez, oui, moi, je comprends vraiment bien leurs préoccupations, et c'est vrai que cet accord cadre peut être lu comme, ou en tout cas interprété, comme étant un accord de plus, un document de plus, un engagement de plus, qui peut-être sur le terrain ne va pas changer vraiment la situation. Moi, je pense quand même que... Je me répète peut-être un peu, mais...
Tout à fait, parce qu'il y a d'autres qui viennent à peine de dos.
Du secrétaire général des Nations Unies, je pense que le nouveau mandat de M. Kerry comme secrétaire d'État des États-Unis à Washington. Je pense que l'implication des pays amis de l'Afrique centrale et de la République démocratique du Congo, que ce soit l'Union européenne, que ce soit la Belgique. On a entendu d'ailleurs le ministre belge des Affaires étrangères proposer qu'on revienne sur l'interdiction de déployer des soldats belges dans la région des Grands Lacs. Hein, vous savez que suite à la fameuse commission d'enquête sur l'assassinat des 10 paracommandos belges en 94 à Kigali, la Belgique avait pris comme décision de ne plus jamais, enfin, de ne plus envoyer de troupes belges dans la région. C'est un document qui a été adopté par la Chambre et le Sénat en 1996, c'était suite à la commission d'enquête parlementaire. Bon, on est aujourd'hui près de 10 ans plus tard. Je pense qu'on peut en effet revenir sur cette interdiction de déployer des soldats belges dans la région des Grands Lacs. Et donc ça veut dire que si le Parlement belge, par exemple, confirme la proposition de M. Renders, eh bien je pense que ça peut aussi faciliter ou permettre en tout cas de retrouver une forme de sécurité. De
voilà, Dominique, si vous pouvez rester en ligne, hein, le temps pour nous de proposer le bulletin d'information et on reviendra à vous et Samy, entre-temps, gardez aussi la ligne.
Bonjour.
Voilà, bonjour Samy. Tout à l'heure, il y avait des petits soucis au niveau de la communication. Merci de nous rejoindre.
Je voulais aussi profiter pour dire que je n'étais pas distrait, sauf qu'il y a eu des problèmes de connexion.
Allez-y, vous avez la parole maintenant.
Ok, merci beaucoup pour la parole que vous m'accordez. J'ai une grande crainte, je voulais exprimer mes craintes parce que de la manière dont les choses sont en train de se dérouler, ça me fait peur. Surtout, si nous revenons à propos du secrétaire d'État américain, M. Johnny Carson, qui l'a appuyé au plan de Nations Unies, il avait dit que non, le problème de la RDC mériterait d'être résolu comme ils l'ont fait à Lille ou ailleurs, comme au Soudan aussi. Ça me pousse à me poser une certaine question. Moi, est-ce que le problème de la RDC doit être Yougoslavie, c'est qu'on simplement émietté en fait la République démocratique du Congo. Aussi, aux accords auxquels la RDC s'engage, nous avons connu plusieurs, Nairobi qui n'a pas été même respecté. Et on parle de l'accord cadre d'Addis Abeba. Est-ce qu'Addis Abeba sera respecté? Je pense tout simplement que l'épée est plutôt suspendue sur la RDC, parce que je ne comprends pas que la RDC pourra être en mesure de respecter tous les engagements qu'elle a pris à Addis Abeba. Hein, vous comprenez que ça pose un sérieux problème. Aussi, est-ce que les pays tels comme le Rwanda, comme l'Ouganda, qui nous agressent souvent, on est avec ou bien il y a l'autre par hypocrisie, ça aussi c'est un questionnement. Je suis pas quelque peu étonné d'apprendre de la bouche de nos officiels dire que non, cet accord pourra résoudre les problèmes de l'aide. Moi je suis pas d'accord avec eux, je suis pas vraiment d'accord. Je dirais plutôt que le problème est interne à la République démocratique du Congo et que les Congolais eux, se prennent à charge pour essayer de résoudre leurs problèmes définitivement. Parce que nous avons très longtemps sur l'appui extérieur, nous avons compté sur les accords, nous avons compté sur les résolutions des Nations Unies même, qui ne sont quelquefois pas contraignantes. Ça pousse beaucoup de Congolais à se questionner si les Nations Unies peuvent réellement apporter une série aux problèmes congolais. Aussi, revenant sur la question...
Oui, rapidement, Samy, parce qu'il y a Guillaume qui attend aussi.
Force internationale naître, c'est une réalité ou bien c'est une fiction? Parce qu'on a commencé à parler de cette force internationale naître depuis le mois d'août 2012 jusqu'à aujourd'hui, on ne voit rien. Donc on va des accords aux accords, on ne sait pas ce qui se passe aux côtés des camps. Ce qui se passe de la même manière. respect, surtout que dans ces accords, dans cet accord cadre-là, on répare presque les mêmes revendications que les revendications du M23. Donc, ce sont, on se demande même si les Nations Unies marchent sur le pas du M23, parce que ça ne se comprend pas comme ça. Ça pose des soucis.
Voilà, Samy, Samy, merci. Nous avons retenu une chose, hein, pour vous, l'épée de Damoclès est sur la RDC, donc le spectre de la balkanisation, pour reprendre vos propos, plane sur d'autres pays. Si on ne fait pas attention, donc, on y arrivera. Ben, vous êtes également sceptique, comme vos prédécesseurs, sur cet accord qui venait d'être signé à Addis Abeba. Confiance, pardon, Guillaume, vous êtes dans la même ville que Samy, qui venait d'intervenir tout à l'heure. Guillaume, vous avez également la parole. Bonjour.
Oui, bonjour, JR. Je salue tous ceux qui contribuent pour ce pays, Sylvain, Samy, merci. Oui, JR, vous savez, je dis, le retour du pays à l'Est, JR, c'est un rêve. Il faut que les gens cessent d'être les faiseurs des accords, JR. Les interrogations restent. C'est un accord de virus.
Oui, quand vous dites, Guillaume, quand vous dites...
Donc, il n'y a pas un cadeau.
Oui, quand vous parlez de rêve, vous voulez dire quoi? Éternellement, il n'y aura pas une solution durable?
Oui, oui, quand je parle de rêve, JR, je voudrais bien continuer. Donc, vous savez, aujourd'hui, la guerre est une succession de batailles. Donc, fondamentalement, JR, je ne pense pas que cet accord peut résoudre une chose, mais à l'Est, mais plutôt cet accord va de plus augmenter l'impunité. Pourquoi je parle de ça? Parce que les hommes d'ordre de la situation à l'Est, avec cet accord, ils venaient d'être lavés devant la communauté internationale, devant l'Union africaine. Donc, je ne pense pas. Donc, une inquiétude à ce qui me concerne aujourd'hui, JR. Donc, cet accord va créer un passage à force, aux forces négatives de passer comme des adversaires. Donc, on peut pas parler des forces négatives au Congo. Donc, aujourd'hui, les pays signataires, dont les autres ont été cités, quand venait l'Ouganda, par exemple, l'Ouganda et le Rwanda, donc ils venaient d'être lavés clairement devant les autres. Hein? Donc, je ne crois pas si on peut encore citer l'un des Ouganda, des Ouganda. Donc, la dernière proposition que je peux donner, cher, pour conclure, parce que je sais que je n'ai pas trop dit pas, donc, il y a une très grande difficulté de sortir de cette crise. Hein. Donc, il faut signer et parler avec les plus concernés et les plus responsables.
Merci beaucoup, Guillaume.
Mon mot de conclusion, hier, dans une minute, ou bien dans une seconde.
Dans une seconde.
Si vous me permettez.
Dans une seconde.
Ok, dans une seconde, mot de conclusion, là, voici pour tous les Congolais. Donc, votre parole vous emprisonne, votre acte vous emprisonne, votre silence vous libère. Signer quand c'est nécessaire.
Merci beaucoup, Guillaume. Dominique Vert, nous revenons à vous. C'est vrai, juste parce que nous avons encore 4 minutes avant de conclure cette émission. C'est vrai, nous allons parcourir un peu les réactions des politiques au Congo ici. Oui. La majorité soutient cet accord cadre. Ils ont salué dès demain cet accord cadre. Pour eux, ça pourrait résoudre réellement donc la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais entre-temps, pour sa part, Lumeya Diou Malegui, pour ne pas les citer, député du groupe des libéraux démocrates chrétiens, dirigé par Moussa Niamoussi, a apprécié le fait que le texte ait été paraphé par 11 chefs d'État africains, mais regrette cependant que le texte ne soit pas plus injonctif à l'égard des rebelles du M23 ou du Rwanda. Et par ailleurs, les forces acquises au changement, une autre plateforme de l'opposition, disons, qualifie cet accord cadre de sans-objet. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de préoccupations ou des positions des uns et des autres?
Ben, écoutez, moi je pense qu'il y a évidemment le jeu politique classique qui fonctionne avec, bien entendu, puisque c'est le chef de l'État qui a signé cet accord cadre pour la République démocratique du Congo, ben, il est logique évidemment que la majorité soutienne cet accord et soutienne le chef de l'État, et que l'opposition, évidemment, jouant son jeu tout à fait logique dans une dynamique démocratique, a plutôt quelques réticences par rapport à cet accord. Et comme je le disais en début d'émission, on peut avoir une double lecture de l'accord cadre. Il est clair qu'il est dans un sens relativement intéressant et même peut-être porteur d'espoir, mais il y a quand même
Et je pense que l'opposition politique l'a relevé de manière assez juste. On a quand même un silence assez incroyable dans cet accord cadre par rapport à la dénomination concrète des groupes armés qui aujourd'hui déstabilisent et sévissent à l'est de la RDC, et notamment le M23. Cet accord cadre signé en février 2013 semble ne pas prendre en compte le fait que Goma est quand même encore aujourd'hui, au moment où l'accord a été signé, sous la menace du M23, des militaires du M23 qui sont vraiment à la banlieue de Goma et qui peuvent prendre Goma d'un jour ou l'autre sans trop de soucis. On l'a vu puisqu'ils l'ont fait au mois de novembre de l'année passée. Et donc c'est vrai que ne pas citer nommément le M23, mais aussi les autres groupes, les FDLR, les Mai Mai, enfin, il y a vraiment une kyrielle de groupes armés qui sévissent tant au sud qu'au nord qui jouent, c'est un petit peu, je peux comprendre, un peu frustrant. Alors, maintenant, je pense quand même que cet accord est porteur d'espoir dans le sens où l'engagement maintenant des 11 chefs d'État ou représentants de chefs d'État qui étaient présents à Addis Abeba, eh bien, aujourd'hui, à mon avis, peut-être plus qu'en 2006, aujourd'hui, la communauté internationale, d'ailleurs, s'est inscrit dans l'accord, va observer de manière très précise si les engagements qui ont été signés vont être respectés et suivis d'effets concrets. Et donc, je serais un peu moins négatif ou un peu moins pessimiste ou sceptique que vos auditeurs par rapport au fait que c'est un accord de plus et puis finalement, est-ce que cela va changer les choses sur le terrain? Ici, voilà. Je pense qu'il y a quand même
rapidement,
de cet accord cadre. Oui. La communauté internationale,
voilà, avec Dominique. Oui, Dominique.
Le Conseil de sécurité.
Dominique, on est désolé, voilà, on est obligé, d'interrompre cet entretien parce que là, les temps, la radio, vont son pesador, donc il faudrait qu'on passe à d'autres programmes. Merci d'avoir accepté notre invitation et à la prochaine, Dominique.
Merci beaucoup et une bonne journée à tout le monde et bon anniversaire.
Merci. Merci à tous d'avoir participé à ces débats. Merci également à Jean-Claude Ziala qui a assuré la mise en onde de cette émission. Titi Poutou et Pierrot et Lamégi l'ont réalisé et J.R. Lungembo vous l'a coordonné et présenté sous la supervision de Nicole Ngaka. Réécoutez cette émission sur www.radiokapi.net.